Pascal Olivier, bonjour.
Bonjour.
Pascal Olivier, vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de votre accueil, de l'accueil que vous réservez donc aux enfants, aux adolescents et aux adultes surdoués, à haut potentiel. Pascal Olivier, pouvez-vous nous parler de comment est-ce que vous recevez ces personnes, ces enfants et ces adolescents ?
Donc, suivant les demandes qui sont faites pour les enfants, par exemple, où c'est généralement les parents qui me contactent, en général, les parents me contactent soit pour faire des tests, donc pour vérifier leur impression à savoir si leur enfant est intellectuellement précoce ou au potentiel, par des comportements à la maison, par des remarques de l'école. Donc, les comportements à la maison, pour des tout-petits, ça peut être des enfants qui sont assez sages, qui sont très observateurs, qui ont développé la parole d'une manière très très efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage bébé comme on dit, des enfants qui assimilent très vite les informations, qui possèdent une très grande mémoire, qui sont très à l'aise dans l'échange, dans la discussion, qui pichent très vite comme me disent les parents, qui au niveau du développement psychomoteur sont des fois un peu en avance mais pas forcément, c'est pas les traits les plus marquants. Et puis des fois avec des sentiments qui est un peu en décalage avec les enfants de son âge, garçons, filles, hein, mélangés, c'est pareil. Donc avec cette impression un peu de bizarrerie, de différence qui est pas nocive, qui est pas pathologique, mais qui est un peu en décalage. Donc les parents se questionnent. Des fois à la crèche ou en maternelle, l'instituteur peut aussi remarquer ça, que cet enfant se met un peu à l'écart, qu'il participe pas au même jeu que les autres, qu'il est en avant sur plein de choses, qui des fois peut être en retard sur d'autres, qu'il n'arrive pas à faire ses lacets, qu'il n'arrive pas à faire des dessins, qui est maladroit, qui est un enfant qui fait très attention, qui n'ose pas prendre des risques, qui a peur de l'échec, etc. Des fois, qui peut paraître pas bon, nul à l'école, qui n'arrive pas à valider des compétences simples alors qu'il arrive à valider des compétences très très développées à côté. Donc voilà, un profil un peu atypique qui interpelle les enseignants, le corps enseignant et donc les parents. Donc voilà, il y a des demandes comme ça qui viennent pour des bilans, pour des tests. Les tests aujourd'hui reconnus sont les échelles de Wechsler qui commencent à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, qui sont validés, qui sont connus et reconnus à travers le monde et au niveau de toutes les professions médicales et paramédicales. Donc voilà, c'est des activités que seuls les psychologues sont habilités à faire ou les psychologues scolaires éventuellement à l'école. Donc voilà, il y a toute cette partie de tests et de bilan qui permet voilà de cerner le fonctionnement intellectuel de l'enfant. Ça permet pas de cerner le côté émotionnel et personnel, mais au moins sur le plan intellectuel, ça permet d'avoir comme ça les informations nécessaires. Et donc après, il y a évidemment tout un travail qui peut être fait avec les parents, avec l'enfant, sur le fait qu'il puisse s'approprier ces notions, sur le fait qu'il puisse comprendre comment il fonctionne, sur le fait qu'il puisse comprendre aussi comment fonctionnent les autres enfants, son entourage, sa famille, lui faire comprendre que c'est pas mieux, c'est pas pire, mais c'est que c'est différent. Donc il faut comprendre cette différence et faire avec, parce que l'enfant intellectuellement précoce, comme tout enfant, considère que tout le monde fonctionne comme lui, donc ne comprend pas pourquoi il y a des fois des injustices, pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire, pourquoi cette logique qu'on leur apprend n'est pas appliquée dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a ce besoin aussi de réassurance, de compréhension qui est efficace. C'est aussi pour les parents, de leur expliquer un petit peu les particularités de leur enfant, leur expliquer un petit peu comment faire, comment pas faire certaines méthodes éducatives, etc. Donc voilà, il y a tout un travail avec les enfants là-dessus. Après, il y a aussi plus tard en primaire des enfants qui effectivement sont dans la construction identitaire, donc ont du mal à comprendre qui ils sont en fonction de l'autre, puisque on sait que les enfants et les adolescents d'autant plus se construisent en fonction de leur père, en fonction de les individus qui sont en face d'eux, en fonction des groupes, en fonction de la société. Donc ils se voient à travers un miroir qui leur correspond pas toujours, donc c'est pas toujours facile à pouvoir se repérer, se représenter ces différents éléments. Donc il y a tout un travail de suivi ou de thérapie pour les parents, pour les adolescents, sur le fait de leur faire exprimer qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils peuvent pas avoir une autre manière de fonctionner, est-ce qu'ils peuvent pas voir les choses aussi autrement. Le but, c'est pas de leur demander de changer, leur but, c'est pas qu'ils soient d'accord avec tout ce qui se passe autour d'eux, mais au moins qu'ils puissent comprendre. C'est l'intérêt du travail psychanalytique que moi je fais avec eux, c'est-à-dire leur donner des bases, essayer de leur montrer des fonctionnements qu'ils puissent l'approprier et pas seulement leur donner un mode d'emploi en leur disant qu'il faut qu'ils s'adaptent au point. Évidemment, par rapport à l'école aussi, les enfants à haut potentiel ou intellectuellement précoces ont des grandes facilités en primaire, mais au collège et au lycée, tout ce qui est problème de méthode, d'organisation, c'est des choses qui sont encore plus dures que les autres enfants. Des études ont montré qu'un tiers des enfants intellectuellement précoces sont en fin de troisième au niveau du brevet. Il y en a un tiers en échec scolaire, un tiers qui arrive à fonctionner bien dans la moyenne et seulement un tiers qui est au-dessus de la moyenne et qui réussit brillamment. Donc le potentiel intellectuel haut n'est pas garant de bons résultats scolaires. Donc voilà, tous les adolescents, il y a tout ce travail-là, plus l'adolescence aussi en elle-même sur le rapport à l'autre, sur la construction identitaire, sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir, change mes plans de repères, etc. Donc il y a aussi tout ce travail pour les adolescents, après des tests ou sans des tests, hein, il n'y a pas une obligation forcément de passer par des tests. Et il y a également de plus en plus de demandes pour des adultes grâce à de nombreux ouvrages qui existent au jour d'aujourd'hui sur les adultes, sur la douance, etc., qui permettent aux adultes de se rendre compte que ils ont peut-être un fonctionnement aussi différent, qu'il y a certaines particularités qui peuvent être liées à ce fonctionnement intellectuel. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, voilà, j'ai lu des livres, j'ai entendu des émissions à la radio, je me suis reconnu dedans, sur le fait que, voilà, je fonctionnais pas pareil, je vais plus vite sur certaines choses. Et puis, sur aussi une remémoration de leur passé. Voilà, ça s'est passé comme ça quand j'étais petit, j'étais en écart par rapport aux autres, j'ai toujours l'impression d'être différente, ou d'être différent, de toujours mieux comprendre, d'aller beaucoup plus vite, etc. Et ces adultes se rendent compte que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Ça se voit aussi d'autant plus sur des parents qui font tester leur enfant parce qu'ils ont des suspicions, se rendent compte que leur enfant est précoce et se disent « Tiens, mon enfant, il fonctionne aussi un peu comme moi, je fonctionnais quand j'étais plus jeune. » On sait aussi qu'il y a un facteur génétique qui rentre en ligne de compte dans la précocité, dans la douance. Donc, ces personnes-là se questionnent. Donc, il y a également des tests qui existent pour adultes, toujours les échelles qui existent. Donc, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, qui sont aussi totalement validés et qui permet dans ce cas-là de pouvoir apporter des éléments en plus sur une compréhension, sur un fonctionnement, sur une connaissance de soi, moi je dirais, et puis qui peut effectivement aboutir à un travail thérapeutique derrière pour justement s'approprier ces notions, mieux comprendre des choses. C'est vraiment pour moi un décryptage d'un mode d'emploi, d'un rapport à l'autre, d'un rapport à la société qui est aussi différent. J'ai oublié tout à l'heure quelque chose pour les enfants. Dans le cadre scolaire aussi, ce qu'on remarque, c'est que ces enfants-là fonctionnent très très vite et donc amènent des fois des sentiments, des ressentis d'ennui. Donc c'est des enfants qui sont des fois pas assez stimulés, puisque la stimulation à l'école est faite pour la moyenne, pour la norme, donc pour la majorité des enfants, avec des adaptations pour des enfants qui sont en difficulté, où on baisse le rythme, où les enseignants vont moins vite, prennent plus de temps, etc. Pour des enfants qui fonctionnent très rapidement dans leur tête, qui ont déjà plein de notions, etc. Il y a des fois des ressentis d'ennui, de désinvestissement, qui peuvent des fois amener à des phobies scolaires parce qu'il n'y a pas assez de stimulation. Donc il y a aussi un travail à faire avec les écoles, avec les enseignants, pour expliquer que ces enfants-là ont besoin d'une stimulation un peu plus importante. Ça peut arriver qu'il y ait des sauts de classe, c'est pas une obligation. Simplement, il y a aussi d'autres moyens. Il y a le fait de pouvoir donner un petit peu plus de nourriture, de faire des groupes de travail, de le responsabiliser, cet enfant, de pouvoir même faire du tutorat avec d'autres enfants en difficulté, où il peut aller les aider à mieux comprendre, qui peut les aider à travailler, à faire des exercices en groupe. C'est quelque chose qui occupe. Le but, c'est pas seulement d'occuper intellectuellement l'enfant, mais aussi de lui apprendre d'autres choses dans le fonctionnement de la vie, de la société. Et ça, ces enfants sont très friands. Il y a aussi toutes les activités extrascolaires qui sont importantes. Au niveau extrascolaire, il y a énormément d'activités qu'ils peuvent aimer, comme des langues, comme de la chanson, comme pour faire plein des échecs, bien entendu. Mais il y a aussi des activités sportives, sachant que les enfants intellectuellement précoces sont pas les plus fans de tout cet aspect moteur, puisque c'est pas quelque chose qu'ils arrivent à maîtriser aussi bien que leur tête. Mais il y a des activités où ils peuvent être à l'aise, avec un peu de technique, ça ils aiment bien, comme par exemple l'escrime, l'escalade, ça c'est des choses qui marchent très bien, la natation ou la course permet le défoulement, permet vraiment de pouvoir se défouler, donc ça c'est très pertinent. Toute activité collective est bien sûr à préconiser, hein, n'importe quel sport en équipe, mais moins sollicité par les enfants précoces parce qu'ils sont moins à l'aise, parce qu'ils maîtrisent moins, donc ils ont l'impression d'être un peu moins bons que les autres, donc c'est une situation qui n'est pas toujours simple. L'activité de théâtre, évidemment, est quelque chose d'important parce que ça leur permet d'exprimer d'autres choses d'eux et de ne pas toujours être dans l'intellectualisation, mais aussi dans l'expression, dans l'émotionnel, dans l'improvisation. Et c'est quelque chose qui leur fait beaucoup lâcher prise et qui leur fait beaucoup de bien. Voilà, donc j'ai fini ce que j'avais en tête. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long, mais j'essaie de faire large.
Parfait. Excusez-moi, j'ai quelques questions à vous poser.
Bien sûr.
Pascal Olivier, revenons un peu à ce que vous m'avez dit précédemment, à savoir qu'il y a trois tiers, le tiers qui réussit, le tiers qui a des notes correctes sans plus, et le tiers qui est en échec à partir de la fin de la troisième. Comment expliquer ces différences? Comment expliquer ces trois positionnements par rapport à l'enseignement et cet écart?
Les études ont montré qu'effectivement, le fonctionnement du travail scolaire au primaire et au collège est très différent. Il n'est pas forcément adapté au développement des enfants intellectuellement précoces. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en primaire, les enseignants demandent surtout aux enfants d'apprendre et de restituer. Ils ne demandent pas toujours d'expliquer, de développer, d'argumenter. Ce n'est pas le principe de tout l'enseignement de primaire. Les enfants intellectuellement précoces ou à haut potentiel ont déjà énormément ces connaissances, donc ne travaillent pas, ne réfléchissent pas, et même souvent quand on leur demande, ne savent pas expliquer comment leur vient la solution qui marche, qui est très bonne, qui est totalement adéquate, mais ils n'arrivent pas à pouvoir l'expliquer, le formuler. Au primaire, c'est pas forcément le plus grave parce qu'ils ont les bonnes notes, parce qu'ils donnent la réponse. Au collège, au début du collège, on voit apparaître l'argumentation, le développement, les plans, les stratégies d'explication, etc. Et que les autres enfants apprennent au fur et à mesure, mais que l'enfant précoce n'a pas senti le besoin d'apprendre parce que pour lui, il savait déjà la réponse. Donc quand il arrive à un moment où on lui demande d'expliquer comment il arrive à ce résultat-là, quand on lui demande d'expliquer d'où il sort ses notions, comment il en est arrivé là, de détailler avec des étapes, ces enfants-là ont beaucoup de mal. Ont beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de méthode de travail. Ils ne savent pas apprendre à apprendre. Ils ont des informations, mais un peu brutes, mais ils ont beaucoup de mal à l'expliquer et à le formuler. Donc s'ils tombent sur des enseignants qui perçoivent pas cette différence et qui ont du mal à pouvoir bien percevoir ça, à pouvoir les aider à leur enseigner des méthodes de travail, et si ces enfants ou adolescents ne perçoivent pas l'utilité de ce travail, forcément, arriver en troisième, on ne demande que des rédactions, que ce soit en français, en histoire géo, même après, on va nous demander en physique, etc., dans plein d'autres matières également, ça va être quelque chose qu'il ne saura pas faire, donc il ne va pas tout développer, malgré ses grandes connaissances. Puis après, c'est un cercle vicieux, moins on y arrive, plus on est bloqué, plus on a peur de ne pas réussir, moins on en met, etc., etc. Ce sont des enfants qui peuvent passer des heures devant un bureau, mais qui ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire, donc il y a vraiment un travail de méthodologie pour les aider, et c'est ce qui, au jour d'aujourd'hui, explique encore ce décalage de tiers en mettant ces enfants en difficulté par rapport à la forme plus que sur le fond, malgré leur bonne connaissance. Hein, je le dis, moi je connais beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont partis sur des voies professionnelles qui n'étaient pas leur choix premier, simplement parce qu'à l'école ça rentrait pas dans les cases du fonctionnement de ce qui était attendu d'eux.
Oui, il y a quand même un tiers qui réussissent bien. Est-ce que vous expliquez ce fait parce que peut-être qu'ils ont eu la chance d'avoir, au cours de leurs études, arrivant d'arriver en troisième, des professeurs qui prenaient en compte peut-être leurs différences ou qui avaient une méthodologie spéciale qui adaptait bien sûr cette méthodologie à tout le monde et par ce biais-là, arrivaient à faire réussir certains, ou alors est-ce que c'est peut-être inné chez eux, ils ont un talent autre que les deux tiers restants?
Alors, chacun évidemment est différent. C'est sûr que si l'environnement scolaire est plus efficace, bien entendu que ça les aide à mieux fonctionner. Il y a aussi tout le travail à la maison, comment ils travaillent, est-ce qu'ils ont des gens, est-ce qu'ils ont des parents, est-ce qu'ils ont des frères et sœurs, est-ce qu'ils ont des gens pour les aider à leurs devoirs qui peuvent leur expliquer. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est inné chez eux, ce fonctionnement de raisonnement, d'explication, autre que leur propre référentiel de fonctionnement. Donc c'est pas quelque chose d'inné, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Après, ça dépend complètement des enfants, c'est-à-dire que des enfants qui perçoivent l'intérêt, qui prennent ça comme un challenge ou un jeu, vont très bien y arriver. Des enfants qui seront accompagnés dans leur travail à la maison, dans leur travail à l'école, évidemment, ça marchera mieux. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout l'aspect émotionnel et personnalité et familial qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire des enfants qui passent des journées dans un climat familial qui est difficile, dans des difficultés personnelles, des enfants qui sont tristes, des enfants qui sont déprimés, des enfants qui sont malheureux, comme des enfants qui ne sont pas précoces, bien entendu, ça va aussi les bloquer et ça va leur empêcher de mettre leur énergie dans ce développement-là. On sait que les enfants intellectuellement précoces, ils ont un côté émotionnel qui est très 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 développé, c'est-à-dire que quand ça va bien, ils vont vraiment très bien. Par contre, quand il y a quelque chose qui va pas bien, tout de suite, c'est un peu la fin du monde et ça va très mal. Donc, des mêmes perturbations qu'il pourrait avoir chez n'importe quel enfant, chez les enfants précoces, ça va encore plus prendre importance, ça va encore plus leur mobiliser d'énergie et un peu moins leur aider pour le travail scolaire. Donc, il n'y a pas que, il y a évidemment l'environnement scolaire, c'est la base, suivant l'école dans laquelle ils étaient. Moi, j'ai vu des enfants avec des enseignants qui les ont limite maltraités en les mettant au fond de la classe, en les punissant parce qu'ils savaient déjà des choses, en dénigrant, en les jugeant, en se moquant d'eux devant les camarades, bah forcément ce sont des enfants qui vont prendre l'école en grippe, des enfants qui vont pas s'investir, donc c'est pas des enfants qui vont faire des efforts. Le goût de l'effort est quelque chose qui est compliqué, donc il faut leur donner envie. Et c'est pas forcément une question d'avoir une école à bon niveau ou à mauvais niveau, c'est d'avoir des interlocuteurs qui sont humains et qui sont compréhensibles et qui sont souples dans la manière de fonctionner. Donc l'environnement scolaire, c'est la base. La structure familiale est évidemment encore plus importante. Et après, c'est un mélange avec la personnalité, avec les envies, puis avec la motivation. Un enfant intellectuellement précoce, par exemple, qui est en cinquième ou en quatrième, qui sait ce qu'il a envie de faire plus tard, et qu'on lui explique le cheminement de comment marche l'école en disant, voilà, faut que tu t'appliques là-dessus, sinon tu pourras pas arriver à ton but, et ben il va forcément plus se mobiliser, plus faire d'efforts qu'un enfant qui ne sait pas trop où il va et où il va se laisser porter.
Pascal Olivier, pour parler de notre sujet, à savoir un communautarisme qui est en pleine expansion actuellement au travers de forums, au travers de sites qui parlent de cette thématique-là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que les enfants intellectuellement précoces, les hauts potentiels, se rencontrent et échangent ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, ça dépend le cadre. Concrètement, moi, j'ai participé et j'encourage des parents et même des adultes à pouvoir se retrouver entre personnes qui fonctionnent de la même manière. Le but pour moi, c'est pas de vivre dans une bulle, c'est pas de vivre enfermé, c'est pas de rester dans un carcan avec une étiquette pompeuse ou quoi que ce soit, pas du tout. Pour moi, c'est pertinent quand c'est ponctuel, c'est-à-dire sur des enfants. Moi, je collabore avec des associations qui proposent des activités extrascolaires de n'importe quoi. Ça peut être pendant des vacances, ça peut être des visites au Louvre, ça peut être des ateliers scientifiques, ça peut être des découvertes de la nature, ça peut être des trucs en chimie, enfin plein de choses complètement différentes. Pour moi, le but, c'est quoi? C'est pas l'activité en elle-même. L'activité, évidemment, les nourrit, puisque les animateurs sont formés pour. Mais le but, c'est qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent se développer dans le regard de l'autre. Et le but, c'est de se dire, voilà, si j'ai quelqu'un en face de moi qui pense pareil que moi et qui fonctionne comme moi, bah, tout compte fait, je suis peut-être pas unique, je suis peut-être pas bizarre, je suis peut-être pas fou, je suis peut-être pas un extraterrestre. C'est le mot qui revient très souvent chez les précoces. C'est, voilà, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Je rencontre personne qui est comme moi. Donc, qu'il y ait des garçons et qu'il y ait des filles mélangés qui se rencontrent ponctuellement, une fois par mois, pendant des vacances, etc. Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'on se développe en fonction du regard de l'autre, je le disais tout à l'heure, et c'est des choses qui sont importantes. Pour des adultes, il y a des associations qui font des repas, des sorties, des apéros, plein de choses, pour effectivement que les gens se rencontrent entre eux. Voilà, parce que ça permet aussi de parler d'autres choses, ça permet de se rassurer sur le fonctionnement, sur comment on est, qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pareil, etc. Donc pour moi, c'est important d'avoir des points de chute en dehors de la vie professionnelle, en dehors de la vie familiale. Avec des petits moments de plaisir, on peut se rencontrer entre personnes qui fonctionnent pareil, comme si c'était une passion partagée. Pour moi, je le prends comme ça. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique. Et tous ceux qui participent à ces groupes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, hein, je le redis, sont enchantés, et les parents aussi. Donc moi, je le préconise, mais à modération. C'est comme un médicament. Si on en fait qu'un tout petit peu, ça agit pas. Si on fait trop souvent, c'est nocif. Après, il faut trouver la bonne régulation pour que ça apporte ce qu'il faut, sans que ça empiète sur la vie, puisque la société est une vie où on brasse des gens qui fonctionnent de manière totalement différente. La précocité intellectuelle est reconnue avec un pourcentage de 2,2% supérieur de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2% de la population qui est considérée comme précoce. Donc forcément, on passe son temps avec 98% autres de la population. Donc faut pas le nier, faut pas faire une secte. C'est pas du tout quelque chose qui est bénéfique, mais c'est quelque chose qui apporte un plus et qui permet un soulagement et une construction identitaire importante, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte.
Pascal Olivier, pensez-vous que les hauts potentiels, les surdoués, les enfants intellectuellement précoces, de par leurs différences, est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à apporter à notre société ?
Tout être humain a quelque chose à apporter en plus, puisque chacun est différent. Ça, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, pour moi c'est évident. Un enfant, un adolescent, un adulte précoce, surdoué, au potentiel comme on veut, a une spécificité de pensée, sachant que chacun est différent. Pour moi, oui, il a forcément quelque chose à apporter sur le côté intellectuel, hein, puisqu'on n'oublie pas que une personne qui a des hauts potentiels, bah, c'est un être humain d'abord avant tout, avec la personnalité, l'émotionnel, etc. Donc il y a, y a des choses à apporter. Après, dans quel domaine et comment, ça dépend. À partir du moment où pour moi il y a un plus dans quelque chose, parce que ces personnes-là ont un fonctionnement intellectuel qui est plus développé, qui est plus fort, donc pour moi il y a quelque chose à apporter. Après, comment le matérialiser, comment le mettre en action, je sais pas, parce que il y a tous les facteurs de la vie qui sont différents. Ça peut être dans des qualités humaines de managériale, ça peut être dans de la création, dans de l'ingénierie, ça peut être dans de la créativité. Moi, je trouve qu'avoir un fonctionnement qui est différent et qui apporte un regard différent et qui permet de pouvoir rentrer dans des domaines par d'autres portes est complémentaire aux autres. Pour moi, puisque ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de différent. Quand on entend un enfant intellectuellement précoce qui explique quelque chose avec une autre logique, c'est déroutant, ça peut être dérangeant, mais cette idée, elle peut être bonne. Elle peut être bien sûr mauvaise, mais elle peut être bonne aussi. Donc, elle a à prendre en compte. Après, est-ce qu'il faut systématiquement... Il y a certains pays, par exemple Israël, a des programmes très spécifiques là-dessus, avec des détections un peu systématiques et importantes, avec des écoles spécialisées, avec un label un peu de précocité intellectuelle importante. Et après, ces personnes-là font partie un peu d'une élite, sont développées, sont mises en valeur, c'est une voie royale de développement. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Je ne sais pas. Concrètement, moi je pense que ça apporte un plus. Après, en faire un dogme ou en faire des surhommes, je pense que c'est pas rendre service à qui que ce soit. Simplement, je pense qu'il faut pas prendre la différence comme quelque chose de négatif et à rejeter. Je pense que c'est complémentaire au reste.
Pascal Olivier, une dernière question sur, encore une fois, un tout autre sujet. Est-ce qu'il y a une particularité, des différences, peut-être des spécificités, au niveau des relations amoureuses et peut-être sexuelles, des hauts potentiels ?
Le rapport à la vie émotionnelle chez les enfants, les adolescents et les adultes, c'est pareil pour les trois à haut potentiel. Ce qui est caractéristique, c'est vraiment le côté entier. C'est-à-dire que c'est des personnes, des enfants, des adultes, des adolescents qui peuvent être au départ un peu méfiantes parce que c'est des gens qui sont très dans l'intellectualisation, donc ils font plus confiance en leur tête qu'en leurs émotions, donc ils peuvent être méfiants, prendre du temps, etc. Par contre, une fois qu'ils s'investissent, ils y vont d'autant plus en entier, encore plus fort que les personnes qui ne sont pas précoces, et s'investissent d'autant plus à fond. Tout le côté émotionnel est exacerbé, c'est-à-dire que quand ils sont amoureux, ils sont encore plus amoureux que les autres. Quand ils ne sont pas bien, ils sont encore moins bien que les autres, etc. C'est amplifié, c'est un peu exponentiel, c'est amplifié par cette précocité. Donc après, ça veut dire aussi que quand il y a des déceptions amoureuses, la déception est encore plus forte et encore plus dure, suivant ce qui s'est passé, évidemment. Donc il y a plutôt une amplitude qui est différente. Après, sur leur vie amoureuse et sur leur vie même sexuelle, après, c'est une question de lâcher prise et d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent, comme tout être humain, mais de passer aussi par le plaisir, par de l'émotionnel, par du ressenti, plus que par de la réflexion. Si dans un rapport sexuel, on est tout le temps en train de penser qu'est-ce qu'on va faire et quoi et comment et qu'on est que dans l'intellectualisation, le plaisir sera forcément pas le même que si on agit en fonction de ce qu'on ressent ou de ce qu'on pense ou de ce qu'on voit de son partenaire, etc. Donc c'est vraiment une question d'amplitude, de lâcher prise et puis d'accepter que l'émotionnel soit un peu plus important que d'habitude et que l'intellectualisation soit un peu moins forte. Donc il n'y a pas de spécificité, c'est plus une amplitude qui est un petit peu différente et puis sur la manière dont après chacun le gère, et après c'est aussi en fonction de la personnalité, de l'histoire de chacun.
Pascal Olivier, si vous aviez quelque chose à souhaiter, quelle serait-elle ?
Au jour d'aujourd'hui, par rapport aux enfants, par rapport aux parents que je reçois en cabinet, moi, ce qui me semblerait important, c'est le fait d'avoir une tolérance et une reconnaissance de ce fonctionnement. Donc moi, mon but, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de mettre en valeur, c'est pas de surestimer des choses, mais simplement, quand je rencontre des enseignants qui me disent, ça fait 40 ans que je fais de l'école, j'ai jamais vu un précoce, ça n'existe pas, et puis tout le monde est pareil, moi, ça me fait mal au cœur, parce qu'en face, moi, je vois des enfants qui souffrent, je vois des parents perdus, etc. Donc pour moi, c'est simplement j'aimerais bien que les gens comprennent que ça existe et que c'est, il faut pas en avoir peur, c'est pas une maladie, c'est pas un handicap, c'est des fois une difficulté, mais quand le milieu s'adapte pas, qu'il faut pas avoir ça comme des génies qui sont heureux dans la vie, qui réussissent mieux que tout le monde, des fois oui, des fois non, mais il faut pas oublier que ce sont d'abord des êtres humains avec des spécificités. Donc pour moi, c'est une tolérance, une reconnaissance. Ces enfants, adolescents, adultes sont des gens extraordinaires, avec des envies extraordinaires, avec une générosité et sans conteste et faudrait pas les briser, faudrait pas les casser. Pour moi, j'aimerais que les gens, pas les protègent, mais en tout cas fassent des efforts aussi pour eux. Ils verront tout ce qu'ils ont à y gagner plutôt que de les voir comme avec de la jalousie, qu'ils les voient avec un côté rebelle ou avec un côté de défiance qui apporte rien à personne et qui fait après des conflits avec les autres. Donc voilà, plutôt ce côté de reconnaissance et puis de tolérance. Ils verront qu'en face, ils auront plus à gagner qu'à perdre et qu'à en avoir peur.
Pascal Olivier, je vous remercie beaucoup. Peut-être que vous avez un site internet à communiquer?
Oui, alors j'ai un site internet www.cabinetpsy.com, www.cabinetpsy.com, tout attaché. C'est un site qui reprend mon activité en libéral. Il y a aussi toute une page sur de la précocité intellectuelle. Il y a un extrait de mon mémoire thèse sur la précocité intellectuelle que j'ai faite il y a quelques années. Donc il y a plein d'éléments, il y a plein de références dessus. Il y a possibilité de me contacter ou de venir me rencontrer en cabinet à Paris avec grand plaisir. Voilà.
Merci Pascal Olivier.
Merci.